Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur Super Laser Punch. Là, aujourd'hui, c'est plutôt laser, puisqu'on va vous parler de Star Wars, mais pas de n'importe quel Star Wars. On revient sur le troisième arc de Andor, les épisodes 7, 8 et 9. Donc, cette série qui est plutôt sympathique jusqu'à maintenant. Est-ce que ça continue? On va le savoir tout de suite. Je suis Patrick Béja et je suis avec Johan. Comment vas-tu, Johan? Je sais qu'on est tous les deux des enfants malades. Donc, même si tu me dis oui, je sais que tu mentiras.
Non, oui, parce que face à l'adversité, voilà, ouais. C'est là que les grandes qualités de...
Ah, mais moi, je m'écroule. Moi, je m'effondre face à l'adversité, surtout quand c'est les enfants qui sont malades. Je suis là. Mais bon, on est là, fidèle au poste, courageux, j'espère. Un petit peu comme, tu vois, les gens qui se battent contre l'oppression de l'Empire Galactique dans Star Wars.
Exactement pareil. Exactement pareil.
Les enfants, c'est un peu Darth Sidious, en fait. C'est un peu ça.
Voilà.
Du coup, on avait parlé des 6 premiers épisodes il y a quelques... Dans notre Super Side Special, on a parlé de 1000 séries différentes il y a 2 semaines. Et maintenant, on arrive donc à ce troisième arc. Donc, j'imagine que vous le savez, hein, si vous écoutez cette discussion, vous savez que Andor est plus ou moins structuré, enfin assez structuré en arc de 3 épisodes. Et donc là, on en est au 3e. Il en reste 1 à venir. Et ce 3e arc, je vais te poser la question du coup, comme ça, Johan, direct, de but en blanc. Est-ce que tu aimes toujours et toujours autant Andor?
Ouais. Ouais, ouais, 100% et toujours un peu plus. Donc, tu vois,
et toujours un peu plus, d'accord.
Vraiment, ouais.
Ça construit d'un épisode sur l'autre, ouais. Ça construit sur ton amour. Et ça, là aussi, c'est comme les enfants, tu vois.
Et je continue à grogner dans mon coin. Oh là là, personne n'en parle. Elle est sous-cotée. Tu sais, comme tous les fans de n'importe quoi, forcément sous-cotée pour moi.
je suis assez d'accord avec ça quand même. Hein. Je trouve que le rapport, le ratio... Le R-note de Andor, de la qualité de Andor par rapport au buzz que ça crée en ligne et dans le monde du divertissement, j'ai l'impression, est quand même très faible, quoi. Parce que c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Et alors, on verra ce que donne le quatrième arc. Mais c'est quand même... Enfin, c'est peut-être un petit peu hérétique de dire ça. C'est pas la meilleure chose qu'a fait Star Wars, de meilleure qualité.
Ouais, non, mais si.
On est d'accord.
Ouais, et puis en fait, ça tranche d'autant plus que le truc d'avant, c'était Obi-Wan.
En
fait, justement, on se disait à l'époque, qu'en fait, on se rend compte encore plus maintenant, qu'on aurait aimé que Obi-Wan soit traité comme est traité aujourd'hui.
Ouais. Et ton niveau est très faible, je vais peut-être le monter. On le montrera au montage, mais je t'entends presque pas. Ouais, c'est un peu... Quand je dis c'est le meilleur truc, comme t'as raison... Enfin, c'est peut-être pas le truc le plus satisfaisant, parce que le fanservice, c'est souvent, quand c'est bien fait, ça fait super plaisir. Et même si je parle de l'ensemble de Star Wars, si tu parles de la première trilogie, il y a des gens qui vont dire oh, « Enfin, t'es fou, mieux que machin, mieux que truc. » Il y a des trucs qui sont... Et peut-être que c'est ce qu'on répétera quand la série sera finie, donc je vais peut-être pas trop en dire, mais il y a des trucs qui sont du fun facile. Genre, quand Luke Skywalker sort son sabre laser, bah c'est fun, c'est cool, tu vois, c'est un truc c'est comme des trucs de super-héros, tu vois, c'est fun, c'est le super-héros landing, tout le monde applaudit et tout le monde est content. Mais ça veut pas dire que c'est de la qualité cinématographique. Andor, c'est vraiment un truc où tu te dis, ils ont écrit l'histoire, ils réalisent leur série, ils pensent à la manière dont les personnages évoluent, ils te réfléchissent, enfin, ils mettent des angles bizarres, c'est tout con, hein, mais des angles un petit peu étranges dans les scènes. Ils vont te filmer un truc qui part d'un petit... qui filme d'un trou qui va te montrer la scène, où ils suivent le truc qu'ils sont en train de pousser. C'est tout con, mais c'est pas que des champs contre champs. C'est éclairé de manière intéressante, les décors sont super poussés, le développement des personnages, et je pense en particulier à... Ah, merde, comment il s'appelle machin. Ah celui qu'on interroge là, celui qui est le pauvre enquêteur qu'on a viré. Je ne sais plus comment il s'appelle. Que sa mère persécute.
Je ne sais plus.
Bah on ne sait pas son nom. Mais,
on n'a pas son nom.
Mais c'est même, on a son nom, mais ce n'est même pas important, quoi. Parce que c'est le personnage, justement, qui est effacé, qui est oublié et que tout le monde... Mais bon, prenons les choses dans l'ordre. Je te laisse développer donc plus parce que je t'ai interrompu. Ce que tu en penses et puis on va parler du premier épisode de cette.
Ouais, du coup, effectivement, on est sur la lignée de ce qui s'est fait en termes qualitatifs jusque là. Pour moi, je suis toujours impressionné par la musique en fait. La musique qui finalement assez discrète, assez elle colle tellement bien aux séquences que on l'oublierait presque, mais même à les réécouter en dehors, enfin, je trouve que la musique est un travail qui est vraiment super, super intéressant et super cool sur la série. Et ça reflète justement l'absence de fanservice, quoi. On n'a pas les trois notes de l'Étoile Noire ou de Dark Vador ou de quand des personnages sont mentionnés, parce que c'est arrivé cette fois-ci. Enfin, on commence à avoir un peu plus de points d'attache avec ce qu'on connaît de la saga. Et puis comme ce que tu disais, quoi, là, les personnages, ils continuent de prendre en volume au fil de la série. Tous les agissements, tous les actes sont motivés et sont, je veux dire, tu comprends pour chacun, tu comprends en fait complètement dans quel état d'esprit ces personnages y sont et tu comprends leurs actes en conséquence. Et alors, je dis ça comme si c'était incroyable, hein, mais c'est juste que ça fait partie des choses qui pouvaient manquer dans d'autres séries récentes, hein, pas que Star Wars d'ailleurs, hein, mais chez Disney Plus en général. Et du coup, voilà quoi. Donc c'est vraiment le top de ce qu'a pu produire Disney Plus, j'ai l'impression.
Ouais.
Et j'aimerais bien que effectivement y ait le succès soit là et pas qu'ils se disent oh bah t'as vu on fait 5 épisodes d'Obi-Wan en carton pâte et en fait ça fait 4 fois plus de monde. Je trouverais ça vraiment dommage, quoi. Donc,
Disons que le mieux ce serait le meilleur des deux mondes, mais ouais, je suis d'accord, c'est assez fou de voir. Tu dis c'est le meilleur de Disney+, je suis assez d'accord. À la limite, WandaVision était vraiment intéressant, donc il y a des discussions à avoir sur ce qui est intéressant dans WandaVision, même s'il se perdait un petit peu en route. Mais pour tout le reste, on est à des années-lumière au niveau de la qualité, c'est-à-dire que la manière dont c'était écrit pour les autres séries, c'était genre, oh, il se passe un truc, et puis après, il se passe un truc, et puis après, il se passe un truc. Là, tu suis les personnages dans leur évolution, et autant on peut parler de Andor, autant random, frustrated, psychopathe, là, complètement étouffé par sa maman et rejeté par l'Empire. Moi, celui-là, il me fascine complètement. Mais parlons du premier épisode, du coup, enfin, de l'épisode 7, en fait. C'est quand Andor, enfin, Cassian, revient sur sa planète de Férix et il va voir sa mère et il se rend compte que bah, sa mère, elle ne va pas le suivre et donc il dit, bon, bah, ok, rien à foutre, je plaque tout, je vais à la plage, je vais profiter de mon argent et en fait, j'en ai rien à foutre de l'Empire et de la Rébellion. Et il essaye d'affirmer sa décision qui est politique, finalement, parce que vous le savez, tout est politique, sa décision d'ignorer ce qui se passe dans la galaxie et dans sa vie. Et bien sûr, il va être rattrapé de manière, d'ailleurs, un petit peu facile, je trouve. dans cet épisode, il est rattrapé par la réalité de la société dans laquelle il vit, c'est-à-dire un empire oppressif. Et comme je le disais, ça, j'ai trouvé ça un peu trop facile. C'est peut-être le point faible qui m'a frustré dans cette série, dans cet arc. c'est que bon, vraiment, tout à coup, ils se retrouvent face aux... comment ils s'appellent, les Beach Troopers.
Les Sand Troopers.
Sand Troopers. Et c'est dans cet épisode hein, qu'il se fait... Les Shore Troopers. Les Shore Troopers.
C'est ça.
Et il se fait arrêter. Bon, ok. C'est vraiment genre, mais non, mais je suis un touriste. Ah, rien à foutre. Bon, c'est...
Allez.
Il montre bien que c'est un bon moyen de montrer que l'Empire est vraiment un empire totalitaire. Mais c'est quand même couillon que ça tombe sur lui, tu vois, il sortait de chez lui, mais c'est bon. Mais,
ouais, okay. pour donner l'échange, ils auraient pu embarquer d'autres innocents qui étaient dans le coin, quoi.
Par exemple, pas juste
lui, parce que c'est justifié, finalement, ils recherchent, en fait, du coup, de la main-d'œuvre. Du coup, ils auraient pu embarquer avec, tu vois, pour rendre le truc un peu plus crédible, parce que ça, c'est vraiment... c'est vrai que ça dénote clairement, quoi. Tu te dis, ah, ouais. Ok, bon, bah...
C'est pas juste moi qui ai trouvé... D'accord, très bien. Et donc, on a cet arc, et puis en parallèle, on a Mon Mothma qui essaye de continuer ses efforts de sape de l'Empire de l'intérieur, mais qui a besoin d'argent, et qui va parler avec son... J'aime bien toute cette partie où elle essaye de jouer politiquement discrètement en évitant son mari, et qu'elle essaye de récupérer de l'argent qui sont sur son compte en banque, mais c'est difficile avec l'Empire qui regarde tout, et elle... prétend être une petite défenseuse inoffensive des bonnes causes et en fait elle travaille en sous-main pour financer une vraie rébellion, mais en même temps elle a ça c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé avec Mon Mothma, c'est que quand elle est confrontée à ce que fait vraiment Luthen et l'attaque qu'on a vue dans l'arc précédent, Elle est choquée parce qu'elle sait ce qu'elle veut faire, ce qu'elle doit faire, mais elle ne se rend pas bien compte de ce que ça implique. Et elle est choquée, mais ça ne veut pas dire non plus qu'elle dit « Ah mais non, oh mon Dieu, j'ai peur, je vais plus y aller. » On a le moment où elle a la confrontation avec Luthen, c'est bien dans cet épisode, je crois, mais elle continue. Et elle est forcément, prise de court par ce qui se passe et par sa réaction, mais elle a la force de caractère de continuer, même si elle a ses... Enfin, c'est pas des doutes, mais c'est, oui, une surprise de ce que ça implique vraiment de financer une rébellion et une révolution. J'ai trouvé ça très bien aussi. T'as plu cet épisode, du coup ?
Ouais, comme toi. Hein. Et puis, voilà, moi, je suis toujours assez client hein, de voir un peu les rouages, que ce soit administratif ou politique, de l'univers de Star Wars, parce que du coup, c'est un élément qui est devenu important avec la prélogie, mais qui, en tout cas, dans les films, après, ils n'ont jamais réexploité ça, on va dire, sous un autre angle, et c'est ce qu'ils font là, et du coup, voilà, super intéressant. Alors du coup, ça, en termes de rythme, après, c'était attendu, hein, on retombe suite à un super braquage avec des feux d'artifice dans le ciel et tout ça. Là, ça retombe un peu dans de l'intrigue politico-administrative, un petit peu plus tranquille. Mais
ce qui m'a pas gêné du tout, hein, d'ailleurs. Non. Entre parenthèses.
Non, ça
je trouvais les
peur,
deux,
moi,
comme on disait,
les
débuts des arcs, ça avait gêné. C'était clairement, tu sentais que c'était plus lent. Là, j'ai pas trouvé. Ça m'a tenu en haleine, quoi.
Et puis finalement, ça avance assez vite parce que justement, côté Cassian, ouais. Là, on va se retrouver assez vite dans un truc assez incroyable et.
Il se fait attraper très vite par... comment il s'appelle les gardiens de plage, là, en bikini, la série.
Baywatch. Alors,
Baywatch, voilà. Il se fait attraper par Baywatch tout de suite sur la plage.
mais ouais, et du coup, là, on est purement dans des intrigues qui ne peuvent, je vais peut-être exagérer en disant ça, mais qui ne peuvent vraiment se déployer que sur des grandes séries, enfin, des séries un peu longues, quoi. Parce qu'effectivement, c'est parce qu'il y a 12 épisodes que tu peux justement prendre le temps de poser ce type de dialogue, d'intrigue, ouais. De rebondissement. Et du coup, non, moi, ça va être surtout l'arc. Hein. Tout l'arc, pour moi... Même si ça reprend doucement, ça remonte tout le long et ça finit sur une cocotte minute qui est à rien d'exploser complètement et ouais, très 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 efficace encore une fois pour moi comme façon d'arranger les épisodes d'une série. Donc,
ouais, je suis alors on en parlera pour le troisième épisode, mais je suis pas autant comment dire, je trouve pas que c'est aussi limite explosif à la fin, mais le deuxième épisode, enfin l'épisode 8 du coup, bah, on amène Cassian à la prison de Narkina 5, qui est, je la trouve intéressante et originale, cette prison, même si là encore c'est un petit peu couillon, ces trucs, ils ont mis des trucs électriques partout sur le sol, donc tout le monde est pieds nus.
C'est Squid Game un peu, hein.
T'as raison, ouais. Ça fait un peu Squid Game, tout à fait. Mais du coup, ça crée cette ambiance. Disons que l'implémentation est un peu couillonne, mais ça crée le sentiment d'oppression qu'ils essayent de créer avec cette prison, qui est en fait une sorte de camp de concentration, finalement, un camp de travail. Oui. Et ça fonctionne, quoi. On a vraiment l'impression d'être dans un camp de concentration où l'espoir ne peut pas exister, où ce vague chiffre qu'il te montre de dans 3000 jours, tu pourras sortir, et tu sais bien que... Ouais, tu pourras sortir. Enfin, bon,
ils sont en sous-sol, hein, on est d'accord. Hein, ils sont
on a l'impression, ouais. Ils sont en sous-sol. Ouais. Et c'est vraiment une usine, c'est un camp de travail, et voilà. Donc on a cette partie pour Cassian, qui lui est complètement... Il joue pas trop mal, hein, je trouve pas qu'il ait un jeu d'acteur incroyable, mais ça, tu sens que quand il arrive là, il est complètement déboussolé, il comprend pas ce qui lui arrive. Et on a de l'autre côté, du coup, comment il s'appelle ? Cyril, voilà, c'est Cyril Karn.
Oui, c'est ça.
Cyril Karn. Qui est interrogé par l'officier qui comprend un petit peu ce qui se passe, Miro, et qui est... Tu sens que tu te dis, alors là, peut-être qu'enfin, on va reconnaître sa valeur à ce bon Cyril Karn qui avait compris ce qu'il fallait faire sur la planète des policiers, là. Et il est encore rabaissé. Et il est rabaissé par sa hiérarchie, il est rabaissé par sa mère, il est rabaissé par son empire auquel il voue une fidélité folle. On va en reparler dans le troisième épisode, mais donc ça, c'est un moment évidemment important. Et puis, on a du coup Miro qui arrive sur Férix et qui attrape Bix. Et on a... Pardon, c'est l'empire des enfants qui m'a... Et du coup, on a cette ouverture vers ce qui se passe dans le troisième. Mais je dirais que cet épisode, il est très bon pour établir l'ambiance de Narkina et pour développer encore cette frustration de Cyril. Mais c'est pas grand-chose d'incroyable non plus au-delà de ça, quoi.
Non, alors ils ont quand même réussi à dropper le Saw Gerrera.
Ah oui, c'est vrai, on voit Saw Gerrera dans celui-là, ouais.
Voilà.
C'est bien fait, hein. Là, c'est le genre de... C'est même pas du fanservice, en fait. C'est parce que, pour moi, le fanservice, c'est un peu le truc que tu mets qui a rien à faire là et que tu mets quand même pour faire plaisir aux fans. Là, c'est complètement cohérent que Luthen aille
c'est
voir...
C'est justifié, bah oui, bien sûr, ouais. Bien sûr. Je veux dire, il est une tête importante de la rébellion armée et on est en train d'organiser ça, donc c'est logique, finalement, que les chemins se croisent.
Et ça va plus loin, voulais... même, parce que ça montre à quel point la rébellion n'est pas un groupe unifié. C'est plusieurs petites factions qui non seulement travaillent indépendamment, mais ne veulent pas travailler ensemble. Ils expliquent à quel... Je ne me souviens plus du nom de la personne dont ils discutent, mais ils disent « Mais celui-là, c'est un... » Enfin, il y a genre... Il y a un anarchiste qui veut de personne, il y a un hyper-violent qui veut tout casser, c'est genre « Mais... » Enfin, t'es fou, moi, je travaille pas avec lui. Et Luthen comprend qu'ils ne peuvent pas gagner s'ils ne travaillent pas ensemble et qu'ils doivent faire des compromis sur leurs idéologies et s'unifier pour réussir à faire quoi que ce soit. Sinon, ils sont perdus. Et donc, la scène avec Saw Gerrera, c'est ça. C'est pas juste « Ah, regarde, on te montre Saw Gerrera,
oui,
ça
va
vous faire plaisir ». C'est une discussion sur... Enfin, de l'exposition ou de l'explication sur l'état des forces qui combattent l'Empire. Et c'est hyper intéressant pour le world building, quoi, et pour comprendre ce qui se passe dans cette galaxie.
Et l'autre perso, moi, qui m'a que j'ai beaucoup apprécié, c'est justement le chef de brigade de dans la prison là, qui est joué par Andy Serkis.
Ah ouais.
Andy Serkis que j'aime pas du tout en général, quand ni quand il joue ni quand il réalise. Là, cette fois-ci, j'ai trouvé super bien dans ce rôle-là. Et il pose une certaine dynamique justement dans ce groupe de prisonniers. Et j'ai trouvé ça assez formidable. Bon, après. Je pense que sur l'épisode 2, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, comme tu l'as dit. On va glisser assez vite vers l'épisode 3.
Tout à fait.
Mais du coup, je trouve que à la fois dans son rôle de finalement de prisonnier, mais chef des prisonniers qui finalement organise son. Alors, il fait ça pour lui, hein, mais voilà, il organise son groupe de travail et puis il est plutôt, on va dire, une figure d'autorité, plutôt du côté de l'autorité. Et qui va glisser jusqu'à la fin de l'épisode 3, justement, complètement renversé. Je trouve que là, il tient super bien, ce personnage-là. Voilà, très, très hâte de voir la suite.
Bah je dirais, moi, je suis complètement éberlué de voir que Andy Serkis joue bien, en fait.
Parce que c'est ça.
C'est pas qu'il est incroyable, genre, je suis éberlué de voir son perso, il est fou. Mais c'est juste qu'il est très convaincant, il est très solide. Alors que moi, comme toi, Serkis, je ne l'ai jamais aimé dans quoi que ce soit qu'il a fait de sa vie. Genre, à la limite, Gollum, ok, ça passe. Mais tu vois, même Claude dans le MCU, il est genre, bon, ça va, ok, ça va. Voilà. Et là, il est juste hyper solide, quoi. Il fait parfaitement son personnage. Je trouve qu'il n'y a pas un glissement. C'est juste qu'à la fin, tu vois, lui, il veut pas entendre parler de rien. Et à la fin du 3, bon, bah là, il a compris que ça ne sert à rien ce qu'il est en train de faire. Donc, il est convaincu par Cassian, mais oui, le perso est hyper solide. Épisode 9, troisième et dernier de cet arc, du coup, qu'est-ce qui se passe? On a la torture, qui est là encore bien trouvée, de Bix. On a la rencontre entre Cyril et Miro, à nouveau. On a Mon Mothma et Colma qui continuent à discuter. On apprend que, comment elle s'appelle ? Il y a tellement de personnages. La rebelle Marva. Non, Marva, c'est la maman. Je ne sais plus. Et en fait, la cousine de Mon Mothma.
Oui. La blonde du casse.
C'est ça. La blonde du casse, c'est elle. On a, je crois que c'est à peu près tout pour cet épisode. Et puis évidemment, la fin où on apprend que un truc dont on se doutait un petit peu, c'est que personne ne sort jamais de cette prison. Un truc d'ailleurs, un petit peut-être plot hole, c'est que la raison pour laquelle il y a une telle rébellion, c'est que quelqu'un qui était au niveau 4, au lieu de le sortir, ils l'ont renvoyé par erreur au niveau 2. Et donc, les gens du niveau 2 se sont aperçus qu'on ne sort jamais. Mais s'ils font ça tout le temps, le mec qui est censé sortir, il ne peut pas dire à ses potes « Non, mais en fait, moi, j'étais au niveau 4 avant. En fait, on ne sort pas. » C'est parce qu'ils font ça depuis longtemps. Ou même s'ils l'envoient sur une autre planète. Tu vois, quand il arrive sur l'autre planète, il dit…
Je suppose que… j'imagine que tu passes de niveau en niveau ou pas loin. Et je pense que du coup, ils se retrouvent qu'avec des gens qui savent que personne ne sort, mais effectivement, ça ne change pas le problème que s'ils se sont rebellés au niveau 2,
ils auraient. Non, mais je veux dire, le mec qu'on a déplacé, au lieu de le faire sortir,
oui,
tu vois, il peut dire aux gens, c'est pas que les gens qui voient le mec arriver, ils disent « Ah, mais on te connaît, toi, t'étais pas censé sortir
oui. ».
C'est que lui qui était censé sortir, il peut dire « Les gars, petit problème, en fait, j'étais censé
alors,
sortir ».
Alors, il prend un lavage de cerveau.
Peut-être, ouais, avec les trucs de torture du docteur
voilà.
Grotz.
Quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que effectivement, du coup, l'Empire, suite à l'attaque du coup de l'arc précédent,
ouais,
ils ont un peu fâché l'Empire, ils ont fâché particulièrement l'Empereur, et du coup, ils ont durci arbitrairement toutes les peines de prison pour justement avoir de la force de main-d'œuvre pour fabriquer, j'imagine, leur. Alors, moi, je suppose que c'est qu'ils sont en train de fabriquer l'étoile noire, simplement.
Hein, j'imagine.
Pour l'étoile noire, et que j'imagine qu'ils les font ne pas sortir pour. Alors, soit c'est nouveau parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre et qu'ils ils empêchent les gens de sortir, et avant, ils ne le faisaient pas, et du coup, ça pourrait expliquer que cette histoire de rébellion, c'est nouveau, en tout cas dans les prisons. Et soit effectivement, ils ne veulent pas que qu'il y ait des secrets de fabrication, voilà, des informations sur ce qu'ils sont en train de fabriquer qui sortent.
Ouais, c'est possible, je ne suis pas convaincu, moi. Je pense que, tu vois, c'est juste des petites mains d'œuvre. Oui. Mais, ouais. mais oui, mais cet aspect durcissement de la force de police de l'État totalitaire, ça se ressent dans la main-d'œuvre dont ils ont besoin. Et puis, on en parle politiquement aussi avec Mon Mothma, qui essaye d'expliquer au Parlement, galactique, que c'est totalitaire et qu'ils ne doivent pas accepter, qu'ils ne doivent pas donner autant de pouvoir à l'empereur, machin. Ça fait écho un petit peu à ce que dit la princesse dans la première trilogie. La démocratie ne meurt pas, comme elle dit, dans une explosion, mais dans un soupir ou dans un in a whisper ou un truc comme ça. Et c'est exactement le glissement totalitaire qu'on connaît dans la réalité, qui prend souvent des années et des années, qui est un empilement de pertes de pouvoir de contrôle de certaines institutions au profit d'un gouvernement qui accumule de la force, quoi. Et donc cet épisode, qui effectivement, alors même si je ne suis pas d'accord que c'est la cocotte minute qui va exploser au-delà de clairement la prison, à un moment il y a un truc qui va se passer là, mais au-delà de ça, je pense que ça reste sur la même ligne. Mais oui, tu sens la pression en tout cas monter et tu sens que y a un truc qui va se passer dans l'arc suivant. J'ai l'impression que tu l'as bien aimé, cet épisode.
Ouais, et puis en plus, alors cette prison est... m'a pas mal évoqué un vieux jeu qui a été annulé, tu sais, Star Wars 13-13, où justement on avait déjà vu des images où c'était un prisonnier qui s'évadait d'une prison qui était enfouie dans le sol là, et du coup effectivement moi mon imaginaire il vagabonde un peu là-dessus, et j'ai l'impression qu'on va se diriger vers à la fois du coup une révolte des prisonniers dans la prison qui vont vraiment tout casser et permettre à Cassian de commencer à s'échapper. Il va être poursuivi à la fois par les gardes de prison, à la fois par l'Empire qui, suite aux interrogatoires, se rend compte que Cassian est en prison, donc ils vont probablement essayer d'arriver à ce moment-là. Il est aussi poursuivi par les hommes de... Luthen, qui veulent se débarrasser de lui parce qu'il en sait trop. Du coup, pour moi, vraiment, là, on va se diriger vers un climax où Cassian va être un peu poursuivi par à peu près toutes les factions qui nous ont été présentées jusque-là. Et donc, avec cette prison qui va... Elle, pour le coup, je pense qu'elle va vraiment exploser. Mais on verra. Et donc, voilà. Donc là, pour moi, là, effectivement, moi, de mon point de vue de viewer, là, j'étais vraiment en tension sur cette fin. Et puis, là, je ne sais plus si c'est la dernière phrase de l'épisode, mais effectivement, quand il y a la scène avec le médecin, j'ai pas son nom, mais Andy Serkis, du coup, commence à comprendre que lui-même, Kino, il s'est fait un petit peu rouler. Ah ouais, c'est ça, Kino. Il s'est fait rouler et qu'ils partent tous les deux, et Cassian lui demande... quoi, une garde, et il répond vraiment avec les dents serrées là. Tu sens que voilà, que ça va soulever des choses, et là pour le coup je suis vraiment suspendu. Ça me l'avait pas fait jusqu'à présent dans la série. Au troisième épisode de l'arc, je suis vraiment suspendu là complètement à merde, qu'est-ce qui va se passer, ça va exploser tout de suite après.
Ouais.
Là, j'ai pas envie que ça retombe en mode
maintenant on prépare les trucs, on va faire le casse, j'ai caché ma brosse à dents taillée dans le
voilà, je veux plus d'exposition, il n'y a plus rien à exposer, il y a des choses à exploser. Je fais une scène d'exposition maintenant, s'il vous plaît.
Moins d'exposition, plus d'explosion. Très bien.
Voilà.
Ouais, je suis assez d'accord, la tension dans la prison et enfin sur cet épisode en particulier, parce que Le pauvre vieux qui finit par mourir, qui a littéralement été worked to death, qu'on a fait travailler jusqu'à ce qu'il en meure. Sur tout l'épisode, tu sens que ça va se passer, et tu attends, et t'as quand même cette oppression du « attends, mais tu peux... » tu peux, si tu travailles plus, être l'équipe de la journée, là, et tu vas avoir un cracker en plus dans ta soupe. Et lui, le pauvre, il est en train de crever pendant tout l'épisode, quoi. Et en plus, quand ils appellent le médecin, tu te dis, ah bah ok, ils vont quand même essayer de l'aider, même si ça va être difficile. Mais ce qui ajoute au désespoir, c'est que le médecin lui-même est... enfin, n'a pas d'illusion, tu vois, il dit je veux pas savoir son nom, il a eu comment on dit, stroke en français,
un AVC
massif, donc on va l'euthanasier maintenant parce que il va pas le laisser, tu vois, une semaine mourir plus lentement. Et ce qui m'a encore plus glacé, ce qui m'a un petit peu fait, comment dire, choqué, c'est que Cassian et Kino, ils essayent même pas de dire non, mais tu peux l'aider, on peut le sauver. Ils disent ah merde, il va sortir. Donc le médecin, tu vois, on va l'euthanasier, bah ok, on lui tient les bras, on lui tient les jambes. Ça va à l'encontre en fait de ce que tu imaginerais. Du héros, au moins, peut-être que Kino à la limite, mais même tu sens que c'est pas naturel pour Kino non plus et que Cassian, c'est clairement pas naturel pour lui et que c'est pas ce qu'un héros de série et de Star Wars ferait. Et il le relève même pas. Cinématographiquement, c'est pas qu'il mette à ce moment un truc de musique qui va monter ou qu'il mette gros plan sur les yeux de Cassian qui se résout à accepter qu'on va. Non, c'est juste comme ça que ça se passe et. Tu vois, ça fait un truc, quoi. Et c'est un petit détail de toute cette scène. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment hyper convaincant et hyper bien foutu. Et là, je vais me lâcher sur Cyril Karn, qui...
Oui.
C'est pour moi le personnage le plus intéressant de toute cette série. Et je suis très... Alors, ils peuvent le planter complètement dans les trois épisodes à venir. Et si ça ne va nulle part, du coup, évidemment, ça retombe. Mais si ça va quelque part, le personnage est construit d'une manière hyper maîtrisée et hyper intéressante. Parce que, comme je le disais, c'est le type dont tu sens qu'il est un petit peu psychopathe sur les bords, quoi. Et tu sens qu'il est rabaissé, frustré... par tout ce qui l'entoure, par sa mère, par son boulot, par ses supérieurs, par l'Empire, qui est différent de ses supérieurs et de son boulot, parce que Miro, elle représente l'Empire. Et tu te dis, quand il va la voir, qu'il la trouve en mode stalker, super creepy, et qu'il la trouve et qu'il lui dit « Ah, je voulais vous dire que je suis dédié à l'Empire, machin », là encore... sorte de surprise et truc étonnant de construction d'une série qui aurait pu être choisir la voie de la facilité, t'aurais pu dire, bon, bah, Miro, elle va dire « Ah, vous êtes très motivé, Monsieur Karn, venez travailler dans mon équipe, nous allons faire du bon travail pour l'Empire ensemble. » T'aurais pu te dire « Ok, c'est comme ça que ça va se développer, ce personnage. » Mais non. Elle lui redit encore une fois « Mon gars, ça suffit, ça fait deux fois que je te dis de rester à ta place, maintenant tu retournes dans ton bureau à la con, là, où t'as tes deux écrans et tes manettes qui font un petit peu penser à... merde, cette série Apple TV, là, où ils sont dissociés. »
The Severance.
Severance, voilà. Ça fait un peu penser à Severance, enfin, c'est l'archétype de l'administration assommante. Tu retournes dans ton petit pod et tu laisses les grands faire leur travail. Ça suffit, et je te le dirai pas trois fois. Et là, le mec, tu te dis, mais où ils emmènent ce personnage? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Soit il pète les plombs et il fait un truc qui... Enfin, soit ils vont en faire quelque chose. À moins que, et ça serait intéressant aussi, ils montrent juste de quelle manière l'Empire étouffe tous les aspects de sa société. Ça serait possiblement intéressant aussi. C'est-à-dire que si, au final, il réussit à rien faire, lui, ça serait intéressant. Mais... s'il explose, entre guillemets, du côté de l'Empire, ou même qu'il se dit « Ah, fuck tout ça, en fait, l'Empire, ils sont comme ma maman, ils me cassent les bonbons, et du coup, je vais aller du côté des rebelles », ça serait intéressant aussi. Donc, lui, il me fascine, et je suis hyper curieux de voir où ils vont l'emmener, encore plus de voir ce qui va se passer sur Narkina 5. Mais donc, sur toute cette série, c'est lui sur lequel je garde mon œil. Et toi, du coup?
Ouais, c'est vrai que bah, je suis un, alors peut-être pas autant, mais effectivement, je suis très intrigué par les choix qui vont arriver là dans les prochains épisodes, parce qu'effectivement, je sais pas trop où est-ce qu'ils vont l'amener. Alors clairement, là, ils ont introduit le fait qu'il soit alors pour le coup assez dérangé et qu'il a des vues sur cet autre personnage. En plus d'un fanatisme assez poussé pour l'Empire, et ça vient pas que de lui, hein, de toute sa famille là, apparemment, qui sont un peu comme ça. Du coup, moi, j'aurais tendance quand même à penser que il va, alors soit il va lui-même aller chercher Andorre. J'espère pas, parce que ça serait vraiment la solution la plus simple et faire que tout le monde se recroise au même endroit. Mais vraisemblablement, j'imagine qu'on va le voir justement monter de deux échelons d'un coup dans cette structure-là qui va avoir besoin de plus en plus de gens dédiés qui obéissent complètement aveuglément, etc. Mmh. Donc on va voir. Effectivement, le personnage, il est super bien tenu par son acteur. Ça aussi, c'est assez...
On va dire son nom, c'est Kyle Soller, qui est pour moi la révélation de
cette série. Il arrive vraiment à transmettre un espèce de malaise quand il parle. Finalement, t'es pas spécialement surpris qu'il soit de le découvrir dans le dernier épisode là. Je crois que c'est dans le dernier hein, où il va voir
Miro, mais
Miro.
Mais moi, je l'ai trouvé, voilà. Je l'ai pas trouvé menaçant. Je l'ai juste trouvé creepy, tu vois.
Bah, si tu veux, dans cette séquence où il se confronte, donc elle est très largement supérieure à lui hein, en termes hiérarchiques, quoi. Il va la tenir par le bras. Il va pallier, si tu veux, d'un coup de main ses menaces à elle, justement, ses injonctions à elle. Pour dire non, mais t'as pas compris, moi, grosso modo, je flash sur toi, je flash sur l'Empire, rien ne m'arrêtera, quoi.
Ouais,
et elle, suite à ça, tu vois qu'elle, j'avais l'impression qu'elle flippait un petit peu, tu vois, de voir ce mec-là avec ce genre d'agissement. Et donc, pour moi, ça s'est assez bien passé et c'était assez glaçant, ouais. Allons voir rapidement où ça nous mène.
Ouais. Donc, il y a d'autres choses, évidemment, qui se passent dans l'épisode, mais on en a parlé. Quelque chose qui reste, c'est là qu'on voit que Rebel Girl est la cousine de Mon Mothma. Mm-hmm. Je crois que c'est à peu près tout. Hein. Juste un mot sur Stellan Skarsgård, en fait. Que je trouve hyper bon aussi en Luthen et la différence entre quand il est on l'a vu dans l'épisode précédent surtout, mais entre quand il est Luthen et quand il est le chef rebelle là, il est super bon, ce mec. C'est un acteur d'une qualité assez rare, mais tous en fait. Men Mon Mothma, elle est exactement ce que tu imagines qu'un personnage dans sa position, tu vois, elle est raffinée mais inquiète, elle est sûre d'elle-même, c'est une politicienne, elle est parfaite. Tout est super. J'espère maintenant, tu vois, je touche du bois, j'espère qu'on va pas avoir un dernier arc décevant, mais bon, on aura la réponse dans les trois prochaines semaines, du coup.
Voilà, peut-être que dans 3 semaines, on viendra vous dire
oubliez tout.
La petite sœur de Yoda et le grand-oncle de Yann Solo, c'était pas possible, quoi.
Ouais, tu sais, si c'est des petites touches comme ça au Guerrera, ça ira, mais oui, la petite sœur de Yoda, ça serait compliqué. Merci Johan d'avoir partagé ce moment avec moi. Je suis tellement content qu'on puisse dire du bien d'une série.
Et de Star Wars surtout, quoi. Parce que...
Ouais, ça a été. Bon, et le Mandalorian, on a aimé quand même. Mais,
oui, c'est vrai.
Donc, bon. et donc, du coup, enfin, si vous n'avez pas regardé cette série, je ne pense pas que vous serez venu écouter cette discussion, mais si vous ne l'avez pas regardé, regardez-la. Et j'ai fait de la torture dont on n'a pas trop parlé, là, les cris des enfants du génocide de la planète. Là, ça aussi, c'était... tu sais, c'est les médecins nazis, quoi, qui font des expériences sur... Bon. Mais du coup, dites à vos amis qu'elles vaut le coup, quoi. Les harcelez pas non plus, mais dites-leur, si, regarde, c'est vachement bien. Et il faut qu'on accomplisse notre mission de dire aux gens, bon, peut-être une fois que la série sera terminée, de dire aux gens, regardez, parce qu'il faut que ce genre de série fonctionne et que ça soit encouragé. On se retrouve du coup, Johan, on espère la semaine prochaine pour parler de Black Panther 2.
Ouais, moi je l'aurais vu en tout cas.
Tu l'auras vu, ok. Moi, si tout va bien, je l'aurais vu aussi. Bon, après, c'est toujours sujet aux maladies des enfants et à tout ça. Mais donc, j'espère que la semaine prochaine, on pourra se retrouver pour parler de ça. Bien sûr, avec une partie sans spoiler et avec. Et puis après, bah, au plus tard, ça sera deux semaines après encore pour finir Andor. Et puis voilà, je crois qu'il y aura une petite période de creux après ça. Mais. J'ai déjà hâte d'être à la semaine prochaine et à la fin d'Andor. Donc, Johan, on se dit au revoir pour le moment, mais ça sera court et on se retrouve très bientôt. Merci d'avoir été avec moi, Johan, et dans une semaine.
Allez, ciao.
Ciao à tous.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.